Alors 2021 débute de manière historique pour les restaurants. C'est la première fois depuis qu'ils existent que tous les établissements français sont fermés. Avant de réfléchir à leur avenir, penchons-nous sur leur passé. D'où viennent-ils? Comment ont-ils traversé les époques? Pour en parler, nous accueillons l'historien Patrick Rambourg. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Et bonne année.
Oui,
bonjour.
Bonne année.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Une réouverture des restaurants?
Oui, et retrouver la joie et le plaisir de pouvoir s'installer dans ces établissements pour déguster de la cuisine.
Alors, vous êtes l'auteur de l'histoire de la cuisine et de la gastronomie française. C'est une bible inégalée et inégalable. Vous êtes historien des pratiques culinaires et alimentaires. On vous retrouve dans l'excellent hors-série du Point, en ce moment en vente dans les kiosques, la gastronomie française, avec les textes fondateurs. Vous êtes même dedans, tiens, Yves Candebordes aussi. C'est un très très beau numéro du Point pour tous les amateurs, justement, de la fourchette. Je vous le conseille vivement. C'est historique, je le disais, c'est la première fois que les restaurants sont à l'arrêt comme ça. Le restaurant Cocorico, hein, une invention française,
ah
Patrick Rambourg.
Oui, une invention française, une invention parisienne avant tout. Les premiers établissements apparaissent au milieu des années 1760 et dans un contexte quand même de forte gastronomie, dans un contexte, dans une ville qui avait déjà développé depuis des siècles des lieux de restauration. Contrairement à ce qu'on dit et contrairement à ce qu'on pense, le restaurant n'a pas été inventé à la Révolution française, il a été inventé quelques décennies auparavant. Et il a été inventé dans une ville où on avait déjà l'habitude de manger hors de chez soi.
Alors oui, on mangeait où d'ailleurs hors de chez soi?
On avait des tavernes, des cabarets, des auberges, des hôtelleries, des traiteurs. Il y avait à la fois des traiteurs de luxe, des traiteurs pour un public beaucoup plus modeste. Et il faut savoir que les métiers de bouche, comme je les appelle, on les voit déjà dès le Moyen-Âge, dès la fin du Moyen-Âge, 13e, 14e, 15e siècle. Et ces métiers de bouche s'adressaient à un public, modeste ou un public bourgeois, disons, à des personnes qui n'avaient pas la possibilité d'avoir une cuisine à la maison. Car, il ne faut pas l'oublier, avoir une cuisine chez soi, c'est récent à l'échelle de l'histoire. Encore au 19e siècle, beaucoup de personnes n'avaient pas de cuisine chez eux.
On avait un foyer, à la limite, avec des braises dans l'âtre.
Oui,
quoi,
c'est ça. Hein, mais, et puis, bien souvent, dans les campagnes, c'était une pièce principale où il y avait tout. Le lit, la table pour manger, l'endroit pour faire sa petite toilette, etc. Donc, la cuisine, comme on la connaît, nous, dans nos appartements et dans nos maisons, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Disons que vraiment, pour que tout le monde en ait une chez soi, c'est disons le fin 19e, début 20e siècle. Voilà.
Qu'est-ce qu'on servait? Qu'est-ce qu'on mangeait dans ces premiers restaurants à Paris?
Ce qui est intéressant, c'est que ces premiers restaurants arrivent dans un contexte de mode, un contexte d'effervescence culinaire, c'est-à-dire ce qu'on appelait la nouvelle cuisine au 18e siècle.
Déjà, c'est drôle,
oui,
hein, on
déjà.
En a parlé, on a fait un dossier au moment de la mort de Valéry Giscard d'Estaing sur la nouvelle cuisine des années 70, mais au 18e,
mais
on
là,
parlait déjà.
Au 18e, on en parlait déjà, c'est-à-dire dans les années 1720, 30, 40, il y a une effervescence culinaire, c'est-à-dire tout le monde se met à parler de cuisine, tout le monde écrit sur la cuisine, même les non-cuisiniers, on a des intellectuels qui discourent sur le sujet, et les livres de cuisine vont servir de débat, c'est-à-dire qu'un chef va publier un livre de cuisine et la préface va être écrite par un érudit de l'époque. Et alors, on parle de cuisine de santé, de cuisine légère, de cuisine qui purifie les aliments pour notamment influer sur le corps humain et notamment sur l'âme de l'être humain, de celui qui va manger. Donc, le restaurant arrive dans un contexte où il y a vraiment une intellectualisation de la pratique culinaire et de la cuisine. Et ces premiers restaurants s'adressent aux élites, notamment aux dames, aux messieurs aussi. D'ailleurs, pour les dames, on va créer des salles spécifiques pour pas qu'il y ait un mélange entre les hommes et les dames. Et on va leur proposer une cuisine dite légère, mais légèreté de l'époque, bien sûr, ça n'a rien à voir avec notre manière de penser la légèreté d'aujourd'hui. Mais quand on regarde les recettes de cuisine dans les traités culinaires du XVIIIe siècle, on a quand même des recettes où on nous dit vous diminuez de la matière grasse, vous diminuez tel ou tel produit. Et il n'y a pas que cette cuisine de santé qui va être proposée et présentée, c'est-à-dire qu'il y a tout le décorum qui va jouer un rôle extrêmement important. On nous parle d'assiettes avec des liserés d'or, on nous parle de petits bols à bouillon, etc.
C'est ça, les bouillons sont très présents dans
oui,
cette cuisine.
C'est ça. Hein. Donc, en fait, on propose des bouillons dans un premier temps, on propose des consommés, on propose de l'eau de la source du roi, on propose des vins des différentes régions du pays, on propose du chapon gros sel, etc. On a une cuisine vers un retour à la simplicité, et vers un retour à une cuisine où le produit principal doit conserver son goût et ses saveurs.
Comment le restaurant en fait, s'est développé dans toute la France et puis dans le monde ensuite? Parce que ça a fait boule de neige.
Oui, alors d'abord sur le mot, pour comprendre cette cuisine de santé. Le mot restaurant, qui s'est imposé un peu dans le monde, partout dans le monde entier, hein, c'est un vieux mot français qui vient du latin restaurare.
C'est-à-dire se restaurer.
Se restaurer, restaurer le corps humain. C'est-à-dire que les premières recettes de restaurants que l'on a dès la fin du Moyen-Âge, elles s'adressent à des malades. C'est-à-dire que quand on dit on prépare un restaurant, ça veut dire qu'on prépare un bouillon de viande pour un malade.
Et encore une fois, le lien entre l'alimentation et la santé.
Exactement.
Hein.
Et le lien entre les premiers établissements que l'on appelle restaurants et la cuisine dite de santé. À partir de là, ça aurait pu être qu'un phénomène de mode, comme ça arrive souvent dans la cuisine, sauf qu'ils ont perduré. Ils se sont maintenus durant la Révolution française parce que de grands établissements vont s'ouvrir donc, et qui vont s'installer notamment au Palais Royal à Paris. Donc, c'est Beauvilliers, c'est les Trois Frères Provençaux, et les cafés aussi, comme le Café de Chartres, qui est l'ancêtre du Grand Véfour. Il y aura Véry aussi, mais Véry aura deux adresses, etc., etc. Donc là, ce sont des grands restaurants, des restaurants qui s'adressent à un public choisi, un public élitiste, à la fois parisien, français, mais aussi européen.
Quelle chance vous avez, Patrick Rambourg, quand vous baladez dans Paris, parce que vous devez vous dire, tiens, là, c'était tel restaurant, celui-ci, je me souviens de l'histoire de ce qui s'est passé là. C'est, tout le monde n'a pas cette histoire en tête, et c'est vrai que Paris fourmille, regorge de petites histoires
oui,
comme ça.
Oui, hein. c'est vrai. Alors bon, bien sûr, le Grand Véfour, c'est un des restaurants qui reste de cette période. Hein. Et à partir de là, la grande réussite du restaurant, c'est que le restaurant, très très vite, a réussi, ben, du moins ceux qui, les restaurateurs, hein, ont réussi à s'ouvrir à un plus large public. C'est pourquoi le restaurant a perduré et a eu un tel succès. C'est-à-dire que progressivement, les établissements se sont ouverts à un public bourgeois, à un public plus modeste, au public des travailleurs. Ça s'est démocratisé et très vite. Et au début du XIXe siècle, on pourrait dire que chacun avait son restaurant, selon les moyens qu'il avait. Et au-delà de cela, il y a encore une autre approche, c'est-à-dire qu'il va y avoir des restaurants dits à la carte qui, globalement, seront les restaurants qui s'adresseront à un public riche, choisi. Et puis, il va y avoir le restaurant que l'on va dire à menu fixe. C'est-à-dire, établissements proposent des menus tout compris, entrée, plat, dessert, vin, pain, et donc à un prix défini à l'avance. Ces établissements vont bien sûr attirer un public plus modeste et qui ont moins de moyens financiers pour aller dans les grands établissements.
C'est passionnant. Alors, comment le restaurant a-t-il évolué? Comment s'adapte-t-il à la crise que nous traversons? Et comment peut-il encore évoluer? On en parle juste après ça avec vous, Patrick Rambourg. Bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire. Et bonne année.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous revoilà à la table des restaurants avec l'historien Patrick Rambourg. Yves Candebord à la table des bons vivants. Présent?
Présent, Laurent, présent, toujours.
Et
présent.
Ophélie Neyman, pardon, présent. J'ai pas été galant, pardon. Ça va, Ophélie?
Mais non, ça va très bien, bon. C'est très bien.
Tiens, une phrase que j'ai repérée dans le bon hors-série du Point, la gastronomie française qu'on trouve actuellement dans les kiosques. On parle des restaurants ce matin, si vous venez d'arriver sur Europe 1, justement de l'histoire et de l'origine de nos restaurants. Une phrase repérée au XVIIIe siècle, écrite par Antoine Caillot, un écrivain de l'époque. « Restaurateur, vous ne savez pas ce que vous valez. » C'est une belle phrase, ça, Patrick Rambourg. Mm-hmm. Hein. Mmh. Et aujourd'hui, nos restaurants sont à l'arrêt. C'est historique, ça?
Alors, à l'arrêt comme cela, je pense que oui. Sauf que, bien évidemment, en quelques siècles, la France a subi quand même pas mal de difficultés ou d'outrages, je ne sais pas comment dire ça. Notamment, bon, si on remonte au 19e siècle et si on reste seulement à la fin du 19e siècle, bon, le siège de Paris en 1870-1871, il est évident que là, la plupart des restaurants ont été obligés de fermer parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Sauf que quelques-uns ont réussi malgré tout à se maintenir. Et on a un menu qui est parvenu jusqu'à nous. C'est le restaurant voisin, notamment pour le Réveillon, où il a réussi à proposer en fait un menu avec les animaux des zoos et du jardin des plantes de la capitale.
Carrément.
Voilà. Mais il y a aussi la Première Guerre mondiale, où il y a eu une pénurie alimentaire. Donc il a fallu que les établissements s'adaptent. Et puis il y a eu l'occupation. L'occupation, j'ai fait une étude sur quelques restaurants durant l'occupation. Bon, beaucoup ont fermé, dont ont réussi à se maintenir, mais ils devaient suivre les restrictions. Et c'était tel jour pas de viande, tel jour pas de tel produit, etc. etc. C'était très compliqué.
Et le marché noir, comme on peut le voir la traversée de Paris, par exemple.
Hein. Exactement. Donc voilà, et là, ça a duré quand même plusieurs années. Donc, ce n'est pas une innovation à 100%, dire ça.
Il y a eu des crises.
Il y a eu des crises. Et puis, bien sûr, si on remonte encore un peu, la Révolution française, comme je l'ai dit, puisque le restaurant a été créé une vingtaine d'années auparavant. Donc, la Révolution française, franchement, il y a quand même quelques établissements qui ont réussi à se maintenir au cœur de Paris. Et alors, bien sûr, pour arriver à avoir de la nourriture, c'était compliqué. Pour arriver à maintenir une clientèle, ce n'était pas simple non plus. Mais malgré tout, ils sont toujours là, ces établissements.
Les restaurants font de la résistance, c'est dans leur ADN, en quelque sorte. Alors, on le voit en ce moment, Yves Candebord, de la résistance, quand on était déconfiné. C'est quoi? C'est les plexiglas? C'est le livre, justement, où on prend des notes pour rappeler les clients en cas de problème? Est-ce que toutes ces solutions là, de gel hydroalcoolique, de plexiglas, de distanciation, sont solubles dans la convivialité qui est chère au restaurant, Patrick Rambourg.
Alors, je ne parlerai pas de résistance, là, je parlerai d'une adaptation, en fait. Et ça, c'était une des forces, en fait, de cette cuisine française, de cette gastronomie française et des restaurants, c'est de s'adapter à l'évolution de la société. Là, on est obligé de s'adapter par la force des choses, parce qu'on est face à une crise sanitaire. Alors, est-ce que ça contribue à la convivialité? Je ne sais pas si je pourrais dire ça. Du moins, dans un premier temps, ça permet de sécuriser la clientèle, le personnel, et probablement, ça contribue à donner envie de pouvoir continuer à aller au restaurant après, quand on pourra y retourner, en fait.
On voit que cette crise aussi, Patrick Rambourg, modifie les habitudes de certains restaurateurs, oui. Yves. Hein, il y en a qui ont quitté la haute cuisine pour faire une cuisine un peu plus de proximité, on va dire. Il se passe des choses. Il y a de plus en plus de restaurants aussi pratiquent la livraison.
Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais on nous a quand même empêchés de travailler. Quoi. On nous a complètement mis sur le côté, qu'on est les vilains petits canards de cette crise. Et c'est vrai que beaucoup de collègues restaurateurs essaient de trouver des solutions différentes pour essayer de survivre. Mais je pense que ça va être relativement intéressant dans un avenir proche qu'on va pouvoir rouvrir, parce qu'il y a certaines habitudes qui se sont mises en place, donc la vente à emporter. Et je crois que la restauration classique française... On va évoluer dans ce sens-là, de façon à pas, comme on dit, avec donc un bon sens paysan, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier.
C'est ça.
Ça nous permettra d'avoir deux activités différentes dans les mêmes lieux pour arriver à équilibrer au cas où une crise à nouveau apparaîtrait.
Vous êtes d'accord avec ça? Le restaurateur s'adapte encore plus qu'avant
pour aller
vers la livraison.
Et puis en même temps, c'est un retour aux sources, puisque les premiers restaurateurs, c'était des traiteurs, en fait, de cette façon. Et puis ne pas oublier que dans une certaine catégorie de restaurants, notamment dans les petites communes, en province, etc., il y avait déjà cette habitude de faire un service traiteur, c'est-à-dire quand il y a un banquet communal, un banquet municipal. Dans la salle des fêtes, le restaurateur, il faisait sa cuisine, et puis il se déplaçait, et puis il servait.
C'est vrai.
Donc oui, cuisiner pour la vente à emporter, beaucoup de restaurateurs vont s'y mettre. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je n'en suis pas certain. Parce qu'économiquement, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même cuisine. Manger à la maison et manger au restaurant, ce n'est pas pareil.
Comment vous voyez le restaurant en 2050, alors, Patrick Rambourg?
Alors là, vous demandez à un historien de prédire l'avenir, c'est compliqué.
De ce qu'on sait du passé, justement.
Il sera toujours là, ça c'est sûr. 2050, c'est loin quand même.
Oui, c'est loin.
En quelques décennies, beaucoup de choses peuvent changer.
Laurent, c'est une question qui est très difficile à répondre à ça, parce que on doit rouvrir dans les mois qui vont venir. Ouais. Et on a entendu des mots de notre Premier ministre qui a dit qu'il allait nous aider à nous moderniser. Moi, j'ai envie de dire à M. Catex, on n'est plus au charbon de bois, vous savez. Il y a des réglementations en France d'hygiène stricte qui sont respectées à la lettre par tous les restaurateurs. Et ce mot moderniser nous fait peur, parce qu'on se dit... C'est moderniser quoi? Il faut faire une réglementation sanitaire très stricte où on va perdre cette authenticité, cette convivialité qu'on pouvait avoir dans le restaurant. C'est-à-dire de nous dire qu'il faudra un client tous les 3 mètres.
Non mais c'est pas possible, c'est pas tenable sur le long terme.
C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans une incertitude totale par rapport à un avenir qui est très proche, où on se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'en France, quand même, on est un vieux pays, le restaurant français existe depuis... très longtemps, on le sait, donc on ne pourra pas quand même tout changer. C'est notre culture, c'est notre façon de vivre, c'est la façon qu'on a d'avoir besoin de cette convivialité, de besoin de ce chaleur humain. Non.
Et 2021, année de la gastronomie, a dit le président Macron et le Premier ministre. Donc voilà, une gastronomie, on n'a pas besoin forcément de la moderniser, elle nous convient, notre gastronomie. Donc conservons-la comme ça.
Je pense que vous avez fait la question et vous avez fait la réponse. Quoi. Elle se portait très très bien. Voilà.
Il y a quand même une adaptation à faire, parce qu'il y a des plats qui sont cuits minutes, il y a des sauces à servir minutes, et maintenant qu'on doit cuisiner pour emporter... Ça change quand même un petit peu.
Ils se sont déjà adaptés, hein, Patrick Rambourg.
Oui, mais ils s'adaptent toujours. Je veux dire, c'est ça. On n'a pas besoin d'une crise pour que la restauration, la cuisine française s'adapte. Elle évolue constamment. Quand on regarde à l'échelle de l'histoire, il y a toujours à un moment donné un renouvellement culinaire. Et souvent, on parle de la querelle des anciens et des modernes. C'est exactement ça. Donc, le mot modernité et moderne, c'est vrai qu'on ne peut pas forcer à un métier ou les restaurants. Qu'est-ce que ça veut dire, moderniser la restauration? C'est compliqué. Maintenant, il est évident que ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans et ce qui se fait aujourd'hui, c'est totalement différent.
Ouais, mais il y a une chose pour moi très importante, c'est par rapport tout à l'heure ce que vous disiez, les questions qui se posaient au XVIIIe siècle, on est dans les mêmes réflexions. C'est-à-dire de la légèreté, essentielle à aller au produit. Rien n'a changé. Ça change simplement par rapport au temps. Voilà, c'est générationnel. La restauration française est la plus belle et elle est enviée par le monde entier parce que c'est tout le temps remis en question. Ouais. Voilà, les chefs cuisiniers, les restaurateurs, tout le monde s'est toujours remis en question pour être toujours au goût du jour et au service de notre clientèle.
Les restaurants appartiennent à notre identité française, à notre patrimoine et ça fait bien plaisir. Merci Patrick Rambourg d'être venu nous en parler. Je renvoie nos auditeurs à votre excellent livre « Histoire de la cuisine et de la gastronomie française » chez Tempus. C'est vraiment une bible. Et puis le bon supplément hors série du Point, la gastronomie française, c'est notre ADN, c'est notre histoire et on en est fiers.